France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
8h35, le désastre écologique et sanitaire des algues vertes revient chaque été pourrir de nombreuses plages bretonnes. Impropres, interdites, dangereuses, mortelles. Ces plages ont longtemps été la honte silencieuse, cachée de la région. L'été venu, et elles le seraient encore, cachées, tenues éloignées de toute recherche de solutions sans une longue et patiente mobilisation depuis le début, les années 60-70. Mobilisation de militants écologistes, de riverains, d'agriculteurs, d'élus, de journalistes bien décidés à dire le scandale, à le montrer pour mieux le comprendre, car montrer, documenter est la solution, loin de l'omerta imposée par ceux gros industriels en tête avec leur relais politique et administratif qui n'ont pas intérêt au changement. Et ce qui vaut pour la baie de Saint-Brieuc ou pour le Trégor vaut pour les berges du lac Victoria qui, loin de Bretagne, sont aussi concernées par un scandale environnemental majeur. Le plus grand lac d'eau douce du continent africain étant menacé de mourir peu à peu et lui aussi ayant besoin d'être montré. On va y revenir sur le lac Victoria. Bonjour Inès Leroux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et documentariste et également scénariste désormais de bande dessinée. Vous publiez avec Pierre Van Hove Algues vertes, l'histoire interdite. C'est publié par la revue Dessinée. Je précise que les auditeurs de France Culture vous connaissent bien puisque vous avez réalisé une série de documentaires en Bretagne pour l'émission Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund, journal breton, la fabrique du silence. À vos côtés, Inès, le photographe et vidéaste Frédéric Noy, bonjour.
Bonjour.
Vous allez présenter une exposition sur la lente agonie du lac Victoria à Visa pour l'image à Perpignan. Ce sera du 31 août jusqu'au 15 septembre. Alors, les algues vertes, on va revenir sur le lac Victoria dans un instant. Les algues vertes en Bretagne, Inès Leroux, c'est un sujet qui vous préoccupe depuis de nombreuses années. C'est d'abord et avant tout l'histoire d'un grand tabou qui remonte aux années 60.
60, 70, en effet, enfin, les premières marées vertes sont notifiées dans un conseil municipal, celui de Saint-Michel-en-Grève, dans les Côtes-d'Armor en 1971. Mais tout ça commence en fait un peu en amont, au moment des grandes réformes agricoles entreprises par l'État français, donc après-guerre.
Vous citez le remembrement et finalement toutes ces conséquences en cascade qui ont produit, qui sont arrivées à produire ce phénomène des algues vertes.
Exactement. Il y a l'instauration d'abord de l'agriculture intensive en Bretagne, sur ce petit territoire qui représente 6% de la surface agricole utile en France. Bientôt, ce territoire va produire la moitié des produits laitiers et de la viande en France. Et pour ça, il va falloir abattre un certain nombre d'arbres, de haies, boucher des rivières pour agrandir les parcelles, pour faire rentrer des tracteurs. Et en fait, toutes ces transformations du paysage vont faire que les engrais mis dans les champs et les déjections des animaux vont s'écouler dans les rivières et vont aller jusque sur le littoral. Et là, ces engrais, comme ils font pousser les plantes dans les champs, vont faire pousser les algues au bord de la mer, en fait.
D'où le phénomène des algues vertes qui, pendant de longues décennies, s'est amplifié et a pourri littéralement la vie des riverains, a tué aussi. C'est ce que vous montrez dans votre bande dessinée sur ces algues vertes. L'histoire d'un grand tabou, puisqu'on savait finalement de conséquence en conséquence ce à quoi on allait arriver assez vite, finalement, mais tout ça a été tué.
Oui. En fait, il y a deux tabous. Il y a le premier tabou, c'est d'où viennent ces algues vertes. Et ça, en fait, dès les années 70, l'ancêtre de l'IFREMER, l'Institut français de l'étude de la mer, va montrer que ces algues vertes sont donc liées à ces fameux nitrates agricoles utilisés dans le modèle intensif. Et puis, mais il va falloir des années et des années, voire des décennies, puisque aujourd'hui encore, le doute est de mise dans la bouche de certains élus, de certains industriels et dans le monde agricole en général, sur le fait que ces algues vertes, on ne sait pas, enfin, on dit... on entend souvent que ces algues vertes, on ne sait pas encore très bien d'où elles viennent. Alors qu'il a été montré et démontré qu'elles sont liées à 95% à l'agriculture intensive.
Il y a tout un discours qui nous explique que finalement les algues vertes pourraient aussi être dues en partie aux concentrations urbaines par exemple.
Voilà, aux stations d'épuration qui ne seraient pas assez performantes, etc. Il y a des lobbies agroalimentaires qui se sont mis en place dans les années 90 pour produire des contre-discours à la science en fait.
Enfin, Alors l'histoire d'un tabou, Inès Leroux, cette BD Algues Vertes qui est en coédition avec Delcourt, je le précise, mais c'est aussi l'histoire de combats que vous voulez montrer, des combats qui datent finalement des années 70 mais qu'on a finalement peu connus.
En fait, le deuxième tabou, c'est les conséquences sanitaires de ces marées vertes qui, effectivement, en pourrissant sur le littoral, produisent un gaz mortel, l'hydrogène sulfuré. Et ça, c'est découvert par un médecin urgentiste de Lannion à la fin des années 80. Et ça va, il va découvrir d'autres morts au fur et à mesure des années. Et lui, ainsi que des militants associatifs, des militants environnementaux, vont devenir des lanceurs d'alerte sur ce phénomène, en fait, et qui, petit à petit, commence à être connu. Hein, voilà.
Et être pris au sérieux.
Et être pris au sérieux.
Un article dans le Figaro d'hier revient sur ce phénomène des algues vertes. Un article dans lequel, d'ailleurs, votre BD, Inès Leroux, est cité. Là, il n'y a plus de doute dans cet article, si on le lit. Il explique très clairement que la situation des algues vertes, notamment en baie de Saint-Brieuc, est due à la réforme du système agricole dans les années 60 et 70, ou même un peu avant encore, et provoque ce type de conséquences, et notamment les morts de 3 personnes, d'un cheval, de dizaines de sangliers, etc. Pour vous, ce genre d'article montre quand même qu'il y a une prise de conscience, ou c'est encore peut-être un peu trop épars?
En fait, des articles disant, enfin, dès 1989, on trouve dans la presse bretonne des articles écrivant noir sur blanc, les algues vertes ont sans doute tué, etc. Finalement, en fait, un peu chaque organe de la société a sa vérité, c'est-à-dire que les médias vont être assez clairvoyants, vont être clairvoyants assez vite. Mais par exemple, les tribunaux n'ont jamais reconnu de lien entre les algues vertes et une mort humaine. L'État aussi tarde à faire ses déclarations de manière publique. Donc on n'est pas encore arrivé à une situation où l'État prenne réellement sa responsabilité et dise oui, c'est vrai, le système qu'on a mis en place après-guerre a des inconvénients, il faut les regarder en face. C'est les pollutions qu'il génère, des pollutions qui peuvent être mortelles.
Alors vous avez travaillé à la radio, Inès Leroux, on l'a dit, sur France Culture, sur France Inter aussi, vous avez fait un certain nombre d'enquêtes et de documentaires consacrés à cette question des algues vertes. Vous venez de le dire, il y a eu énormément d'articles également dans la presse locale bretonne et même ailleurs, évidemment. Votre BD, Les algues vertes, semble quand même être, et c'était le cas dans cet article du Figaro hier, un moment important dans le combat pour la reconnaissance de ce qui s'est effectivement passé sur le terrain. Ça, c'est quand même assez impressionnant qu'une bande dessinée ait un statut particulier. On va parler du statut de l'image, du coup, maintenant, et aussi avec Frédéric Noy qui est avec nous. C'est quand même assez étonnant qu'une BD soit un moment marquant dans un débat comme celui-là.
C'est vrai que je m'y attendais pas. Enfin, pour moi, l'idée, c'était vraiment de reconstruire cette histoire qui n'avait pas encore été écrite. Je suis allée, voilà, j'ai enregistré des centaines de témoins. J'ai essayé de recouper tous ces faits, de les recueillir, de les présenter, de les articuler. Et en fait, c'est vrai que passer par la BD, c'était quand même la possibilité de rendre un peu digeste un sujet très complexe et accessible. Et là, lorsqu'on est allé dédicacer cette bande dessinée, notamment en Bretagne, on s'attendait pas à un tel intérêt, quoi. Il y avait des gens de tous les âges, il y a des enfants qui ont lu la BD, des enseignants qui nous ont dit que qu'ils voulaient l'utiliser comme support pédagogique. Et surtout, mais voilà, énormément de gens qui nous ont raconté à chaque signature leurs propres problèmes sur les plages bretonnes, des nausées qu'ils avaient eues, tout un tas d'anecdotes par rapport aux algues vertes. Et on sent que ça fait, ça réactive la mémoire et ça fait surgir une histoire qui était restée sous une chape de plomb.
Sur le pouvoir mystérieux de la bande dessinée, qui n'est pas si mystérieux d'ailleurs. Écoutez, Étienne Davodeau, célèbre auteur de bande dessinée, il était invité de la Grande Table en 2015 au moment de la publication de « Cher pays de notre enfance ».
En tant qu'auteur de bande dessinée, j'ai l'envie, je veux raconter des histoires qui soient des histoires nourrissantes en quelque sorte pour le lecteur, et avec cette espèce de plus-value qu'est là d'être en plus une histoire qui s'est réellement passée. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais en même temps, dès qu'on rentre dans ce genre de sujet, moi ce qui m'intéresse, c'est de chercher en quoi la bande dessinée, elle a des vertus et des qualités pour faire ce genre de récit. vertus et qualités qui, à mon avis, sont encore assez largement sous-estimées et sous-exploitées, si on peut dire. Et faire ce genre de récit avec un journaliste d'investigation, c'est en quelque sorte accéder à des infos auxquelles je n'aurais pas accédé seul. Donc on a formé ce tandem assez complémentaire. Et moi, je suis l'intermédiaire. À la fois, je m'occupe de la forme du récit. Et puis en même temps, je suis le passeur entre le lecteur qui, effectivement, ne connaît pas forcément cette histoire. Et puis le récit qui est en train de se dérouler sous nos yeux.
Étienne Davodeau, à la grande table sur France Culture en octobre 2015. Vous, Inès Leroy, vous êtes la journaliste dans ce tandem que vous formez avec Pierre Van Hove, auteur de « Les algues vertes », l'histoire interdite. C'est quoi ces vertus dont parlait Étienne Davodeau à l'instant? C'est quoi cette plus-value qu'a la bande dessinée dans l'enquête journalistique?
Bah, en fait, il y a quelque chose d'incroyable dans la bande dessinée. J'ai l'impression qu'on ne pourrait jamais faire ça en littérature ou avec un film, etc. C'est qu'on peut vraiment reconstituer complètement ce qu'il s'est passé. Donc nous, on s'est énormément documenté visuellement, etc. sur les années 50, 60, 70. Et on a regardé des photos des personnages plus jeunes, et donc on a des photos des lanceurs d'alerte, par exemple l'urgentiste de Lannion quand il avait 30 ans, etc. Et on a pu reconstituer des faits réels, mais vraiment comme si on y était, en fait, ce qu'un film n'aurait jamais permis, puisqu'il aurait fallu passer par des comédiens. Et donc ça, c'est assez fabuleux de tirer les fils d'une histoire en suivant des personnages. On a vraiment l'impression de se plonger dans un polar, dans une fiction, et pourtant tout est vrai, en fait, tout est...
Un film aurait peut-être pas non plus le même impact tout à fait que ces dessins signés Pierre Van Hove.
Eh bien, oui, il y a autre chose qui est assez, qui m'a étonnée. Mais alors ça, c'est les trouvailles complètement de Pierre. C'est la manière dont il déploie l'organisation des lobbies en Bretagne sur des doubles pages. Moi, je lui avais sorti.
Il y a deux doubles pages effectivement sur l'organisation. C'est une cartographie presque.
Je lui avais sorti des organigrammes indigestes. J'essayais de montrer les liens entre ces différents lobbies, les personnages communs, et il en a sorti des doubles pages où on peut suivre notamment Jean-Yves Le Drian qui passe de lobby en lobby, comme dans un jeu vidéo, en fait, par différents moyens, élitreuillé, héliporté, etc. Comment il est accueilli dans ses lobbies, il en sort, il passe à un autre, et du coup ça devient hilarant. En fait.
C'est une façon hilarante, peut-être ludique, mais digeste aussi de présenter ce genre de problématiques qui sont quand même lourdes. On parle d'un scandale sanitaire écologique majeur, on parle aussi de morts, trois connus, mais ce sont des questions qui sont assez graves, Inès Leroy, et on arrive à en faire peut-être quelque chose de plus accessible, quoi.
Bah c'est vrai que moi, quand j'ai présenté en fait mon scénario à Pierre, c'était un scénario très sérieux, et qu'il a il est dans cette veine de la bande dessinée drôle, ironique, et du coup il a apporté toute cette touche d'humour en fait à l'enquête.
Alors d'humour, il n'y a pas trop hein, dans votre travail, Frédéric Noir. Rebonjour. Vous allez exposer à Perpignan, dans le cadre de Visa pour l'image, un travail fait sur les rives du lac Victoria. Alors il y a des enjeux également qui sont très très précisément écologiques sur ces rives du lac Victoria, côté non pas Ouganda mais côté sud, hein, c'est ça, vous avez travaillé
côté Kenyan. Moi j'ai travaillé sur les trois pays riverains, donc Kenya, Tanzanie et Ouganda, et je voulais faire une cartographie sociale, écologique, humaine du lac, et c'est parti de la déclaration d'un gouverneur côté Kenyan. Le Kenya n'a que 6% du lac, quand l'Ouganda en a 51% et le reste est... Non, la Tanzanie en a 51%, le reste est ougandais. Et ce gouverneur a déclaré que dans 50 ans, le lac serait mort, virtuellement mort, à cause de ce qu'on y déversait. Donc c'est parti de cette idée-là, et j'ai compris aussi que notamment, s'il avait cette vision-là, c'est qu'il y avait un problème d'algues aussi sur le lac Victoria.
Il y a aussi des algues vertes.
Voilà, alors c'est pas des algues qui finissent sur les rives, mais elles sont flottantes. Et elles ne sont pas mortelles, mais elles sont plutôt une arme de mort sociale. C'est-à-dire qu'elles s'accumulent tellement sur les rives qu'elles empêchent les pêcheurs de prendre leur bateau et d'aller pêcher. Sachant qu'il y a 30 à 40 millions de personnes qui dépendent du lac pour vivre.
Très directement en termes de nourriture.
En termes de nourriture.
De ressources économiques.
Exactement. Et il y a la moitié de ces personnes qui vivent avec moins de 1,25$ par jour. Sachant que le seuil d'extrême pauvreté est, selon la FMI, de 1,90$.
Alors votre méthodologie d'enquête finalement, puisque c'est aussi une enquête que vous avez menée, Frédéric Noy, est à peu près la même que celle d'Inès Leroy. C'est-à-dire que vous vous êtes immergé, vous avez vécu pendant de très nombreuses années sur place. pour documenter.
Moi, j'ai vécu 7 années en Ouganda et plus de 3 en Tanzanie, donc sur les sur les rives du lac ou proche du lac. Et ce travail-là est le résultat de 7 mois de travail, sans compter les années avant où je vivais et où peu à peu ça rentrait dans mon esprit l'envie et le besoin de faire un travail sur le lac. Donc effectivement, c'est un travail d'immersion parce que je conçois pas de faire un travail d'enquête sans avoir le facteur temps de notre côté. Et c'est vrai que là-dessus, on a plusieurs points communs avec Inès, mais celui-là, pour moi, est le premier et le plus évident.
Effectivement, il y a cette façon d'aller chercher les informations les plus fines directement à la source.
C'est le problème de la photo, c'est qu'aussi, on peut pas recréer, ni réécrire, ni reconstituer, ni...
Il faut être sur place.
Il faut être là, il faut être sur place, et être là quand ça arrive, et c'est le facteur temps. C'est-à-dire que vous pouvez passer 4 jours pour avoir la photo qui va durer un 125e de seconde.
Ouais, mais qui va dire tellement. C'est ça aussi un autre point commun avec avec le travail d'Inès Leroy, hein, Frédéric Noir, c'est que vous voulez montrer pour dénoncer.
C'est indispensable. Je veux montrer, mais dans mon travail, je ne sais jamais vraiment ce que je vais pouvoir voir. Je sais ce que je veux montrer, mais je ne sais pas ce que je verrai au moment où j'y serai. Donc c'est aussi le sentiment d'être un pêcheur. Un pêcheur où on jette une ligne dans une situation en espérant qu'à un moment ou à un autre ça morde, et des fois ce qui mord c'est pas ce qu'on espérait, mais en fait c'est beaucoup plus significatif que ce à quoi on s'attendait.
Alors vous, la force de l'image, vous ne la découvrez pas, mais sur ce que disait tout à l'heure Inès Leroy et sur ce pouvoir de montrer parfois des images qui reviennent d'un peu plus loin dans le temps, vous n'avez pas cette possibilité là, mais vous en avez d'autres.
Oui, moi j'aime bien le côté contemplatif aussi, c'est-à-dire passer du temps et quelquefois c'est une scène d'ensemble qui va dire beaucoup plus qu'une photo qui a un seul sens, une seule signification sur un gros plan, sur un portrait, alors que des scènes beaucoup plus contemplatives qui nécessitent des heures, voire des journées de retour, pour moi, va s'adresser à l'inconscient du spectateur. C'est-à-dire que la beauté d'une scène, la beauté apparente d'une scène, fait qu'on s'y arrête. On s'arrête sur l'image, on la regarde, on s'en imprègne, et que après vient le moment où celui qui regarde l'image ou celle qui regarde l'image s'interrogera. Je pars du principe, je fais confiance à l'intelligence des gens qui regardent mes images. C'est le pari au départ.
Sur l'esthétisation des images et des photographies notamment, je vous propose d'écouter Philippe Chancel, qui était l'invité il y a quelques temps des Matins d'été sur France Culture, à propos de son travail sur le delta du Niger.
L'esthétisation de mes images, c'est une sorte de défense en définitive. C'est-à-dire que parfois la violence est tellement forte sur certains terrains d'investigation. Par exemple, j'ai en mémoire le delta du Niger, qui est quand même un enfer sur Terre. Et si j'avais pas eu cet échappatoire comme ça de voir dans ce désastre ravageur une certaine beauté à tout ça, je pense que je n'en serais pas sorti, quoi, d'une certaine manière. Donc c'est une manière aussi de faire une approche en douceur et de donner à voir de façon plus légère, finalement, des choses assez dramatiques.
Voilà, Philippe Chancel, c'était le 11 juillet dernier dans les Matins d'été de France Culture. Vous souscrivez, Frédéric Noir, un peu comme ce que nous disait tout à l'heure Inès Leroy, d'ailleurs, sur les dessins de Pierre Vanhove, qui sont tout gentils, tout mignons pour dire des choses.
Mais pour moi, l'esthétique vient de 3 choses. La première, c'est que les premiers photographes que j'admire sont des peintres. Mon école de la photographie, c'est Musée d'Orsay, le Louvre. Je suis d'un classicisme pur et indécrottable. Le deuxième aspect, c'est un extrait du livre de Georges Samprin sur l'écriture ou la vie, où il est dans un camp de concentration. Ils font un grand débat sur comment faire passer des messages. Et lui dit, il est indispensable d'avoir de l'esthétique, parce que c'est l'esthétique qui accroche l'attention des gens et qui permet après de parler de ce qui est dessous. Et le troisième théorème qui sous-tend mon travail, c'est Victor Hugo qui dit la forme, c'est le fond amené à la surface. Donc si on travaille la forme, il est indéniable pour moi que le fond n'est pas très loin. Et le fond, c'est ce qui m'intéresse vraiment, de partager avec les gens. Mais s'il n'y a pas de forme, c'est difficile d'accrocher leur attention.
Et le fond est terrible, hein, pour revenir en quelques mots sur la situation du lac Victoria. Votre exposition s'intitule L'agonie du...
Oui, c'est la lente
agonie du lac Victoria.
Parce que oui, c'est terrible. Et ce qui est le plus terrible pour moi, c'est que il faut être dans ma position pour l'apercevoir, au sens où je ne suis pas directement une victime. Et quand on parle aux gens qui habitent au bord du lac et qu'on leur parle cette langue agonique, et c'est pas de moi, il y a des scientifiques kényans qui eux-mêmes le disent, pour eux, il y a une forme d'incrédulité, non pas qu'ils sont pas assez intelligents pour le comprendre, mais c'est que c'est pas du tout un enjeu de leur existence. L'enjeu de leur existence, c'est survivre. Et c'est ça qui me touche le plus. C'est de voir que les premières victimes sont les gens qui sentent moins les coups.
Sur l'eutrophisation donc des eaux du lac Victoria, votre exposition sera à voir à Visa pour l'image, Frédéric Noy à Perpignan du 31 août au 15 septembre. Merci à vous. Merci aussi Inès Leroux. Je rappelle le titre de votre bande dessinée d'enquête réalisée avec Pierre Van Hove, le dessinateur. Algues vertes, histoire interdite, paru en coédition avec la revue dessinée qui fait un grand travail journalistique avec les armes de la bande dessinée et en coédition donc avec Delcourt. Merci à tous les deux d'être venus ce matin.
Merci beaucoup
pour les matins d'été.